Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors ce soir c'est Money Time pour une saison 5, un épisode de 14 avec autour de la table, eh bien une petite bande de chroniqueurs ce soir. Mais ils sont là et on commence avec toi mon Jérém, comment tu vas bien mon pote?
Ça va très bien et je dis bonsoir à toutes et à tous.
Et tu n'es pas tout seul puisque Charles est en face de toi. Salut Charles, ça va comme tu veux?
Salut à tous, bah ça va, et ma foi très bien, très content d'être là, même si on est effectif réduit, hein. mais on va produire une bonne émission.
Ouais, on va s'en sortir les copains. Alors au sommaire ce soir, eh ben, une fois n'est pas coutume, on démarre avec les sports d'hiver. On revient sur le week-end de biathlon et celui de ski alpin. Dans la foulée, bien sûr, la page football. Il s'agira de Ligue 1 et des championnats étrangers. Mais on n'oublie pas aussi, Jérém, la CAN qui a débuté hier soir. Enfin, dans notre rubrique multizone, on parlera de handball, de tennis, de sport méca et bien d'autres choses encore. Mais pour l'instant, on parle de sport d'hiver et c'est Snowpark. Ça vient. Snowpark, c'est tout de suite.
Pendant ce temps-là, Marta Fourcade est déjà en train d'en terminer. Quelle réaction du patron du biathlon mondial. Le 10e titre de champion du monde à titre individuel pour Marta Fourcade. Champion Fourcade.
Snowpark, l'actualité des sports d'hiver, tous les lundis de 19h à 20h dans Money Time.
Money Time.
Et oui, il est question de biathlon dans Snowpark. On parle bien sûr de la 6e étape de la Coupe du Monde. Avec toi, Charles, on était à Oberhof en Allemagne. Et on va commencer à parler biathlon et on commence avec les femmes. C'était vendredi et c'est la victoire pour Roysland, la Norvégienne.
Exactement, Marthe Roysland, la Norvégienne, qui depuis le début de la saison domine ses adversaires en tête largement du classement général de la Coupe du Monde, qui suite à réaliser un très bon sprint pour s'imposer devant la Française Julia Simon. À égalité avec Anna Sola. Donc on avait un petit peu un podium assez surprenant avec Roysland en tête et puis finalement deuxième place et donc pas de réel troisième sur le podium. C'était une des premières fois que cela arrivait. Les Chevalier Boucher, elle finissait sixième. Donc Marthe Roysland qui confirmait sa place de favori de cette saison et son le fait qu'elle était au-dessus des autres, que ça soit sur les skis ou surtout sur le tir.
Ouais, puis j'ai envie de te dire révélation cette saison, ce duo de Biélorusses hein, avec Alimbekava et Anna Sola hein, qui entoure Julia Simon sur le podium. Même au général, hein, ces filles sont là, elles sont dangereuses.
C'est ça, on avait déjà vu Alimbekava les dernières, notamment porter le maillot bleu, celle de meilleure jeune. On la voyait un petit peu faire quelques coups et être présente et vraiment plutôt pas mal performée. Mais c'est vrai que cette saison, elle est encore meilleure. Et Anna Sola aussi qui l'accompagne très bien cette saison avec, au classement général. Elle est sixième, elle n'a pas fait la poursuite du dimanche, mais les deux sont présentes. Et mais on a vraiment une très belle équipe biélorusse cette saison, que ça soit aussi chez les femmes ou chez les hommes.
Chez les hommes, ouais, aussi, ouais. Chez les hommes, ça pousse aussi. Hein. Mmh. C'est mieux que les saisons dernières. On peut quand même relever la sixième place de Julia, d'Anaïs Chevalier sur le sprint, hein, qui lui donne une cérémonie des fleurs.
C'est ça, c'est un bon top 6, c'est important pour la confiance, celle qui est parfois un petit peu irrégulière. On l'avait vu la dernière étape avoir faire un petit peu un flop sur une des courses. Donc là, c'était important de se remettre dedans et une bonne sixième place.
Ouais, et puis tu sais que sur le sprint, il faut être bien placé parce que ça détermine ta position sur la poursuite, donc ton résultat. Eh ben, on va en parler de cette poursuite. Donc, coup double du coup pour Roseland, hein, qui après avoir gagné le sprint le jeudi, gagne la poursuite hier.
C'est ça, bah encore une démonstration vraiment largement au-dessus.
Elle n'a pas raté beaucoup de balles ce week-end. Hein.
Non, elle est à 10 sur 10, je crois, sur le coucher, et à 9 sur 10, je crois, sur le debout, si elle n'a qu'une balle. Donc, c'est vraiment impressionnant. Elle est vraiment au-dessus. Derrière, finalement, hormis Anaïs Chevalier-Boucher, qui fait finalement qu'une faute, mais finalement elle partait plus loin, donc c'était compliqué de la rattraper. Il y avait aucune concurrence. La deuxième, Anna Öberg, la Suédoise, a fini à plus de 33 secondes avec deux fautes. Et la Biélorusse, Alim Bekava, qui fait une belle troisième place devant le duo de Française Julia Simon, Anaïs Chevalier-Boucher. Roy Zeland, cette année, c'est vraiment très très fort.
Ouais, une cérémonie des fleurs hein, pour les deux Françaises qui se replacent bien au général.
Mais qui jouaient le podium sur le dernier tir de cette poursuite. Hein. Il y avait Anna Öberg, Alim Bekava qui ont fait une faute, elles étaient juste derrière. Elles auraient, avec un 5 sur 5, elles seraient reparties devant. Mais Julia Simon, elle, a fait une faute. Et Anna Chevalier, qui était un poil derrière, elle a réussi le 5 sur 5. Mais du coup, sur des skis un peu moins performantes, elle est allée juste derrière elle et n'a pas pu remonter sur ses deux adversaires suédoises et biélorusses.
Bescon qui passe un peu à côté de son week-end.
C'est ça, Anaïs Bescon qui s'est un petit peu loupée. Une 23e place sur la poursuite, elle qui était pourtant en tête hein, parmi les Françaises au classement général de la Coupe du Monde. On s'attendait donc à un petit peu une meilleure performance, mais elle va dire qu'elle limite la casse et conserve un top 10 au classement général en étant 9e.
Ouais, 9e pour Anaïs Bescon, 7e pour Anaïs Chevalier. Julia Simon qui revient bien après un mois de décembre catastrophe. Hein, elle est 11e au général et Justine Breza 12e, donc les Françaises.
Hein, les Françaises sont placées, hein, elles sont placées, elles sont entre 7 et 12, mais malheureusement elles sont derrière les grosses ténors du circuit. Hein. Elles sont toujours là, on a vraiment, comparé à l'année dernière où il y avait quand même un peu plus de distance, là elles sont un peu plus proches quand même du top 10. On en a quand même deux dans le top 10, donc c'est bien et ça prévage de belles performances, possiblement sur les Jeux Olympiques. Surtout, pourquoi pas sur le relais.
Ouais, on attend Julia, hein, la fille en forme de l'équipe de France. On espère qu'elle sera aussi en forme dans un mois. On va parler des garçons. C'était le même programme, hein, sprint poursuite. Et le sprint, il est pour Loginov. Hein, Loginov qui n'avait pas beaucoup brillé depuis le début de la saison. Mais là, il met tout le monde d'accord avec une victoire sur le 10 km sprint.
C'est ça, on a Loginov qui a été vraiment très impressionnant. Un 9 sur 10, donc dans des conditions très compliquées. Il y avait pas mal de vent. On le voyait, hein, c'était assez parfois des rafales. Donc c'était compliqué de réussir à avoir le 10 sur 10. Peu l'ont fait, il y a juste Anton Babikov, 6e du coup. Hein, forcément le russe qu'on retrouve cette saison sur le circuit de la Coupe du Monde qui a réussi le 10 sur 10. Derrière c'est très compliqué et Loginov avec 9 sur 10 forcément s'en sort bien avec une bonne tenue sur les skis. Il a su passer finalement devant Emilien Jacquelin lors du dernier intermédiaire où Jacquelin à ce moment-là était devant. Mais Jacquelin un petit peu craqué par rapport à lui, mais lui Loginov a bien tenu et du coup il s'impose devant le français Emilien Jacquelin. C'est un nouveau podium pour le français qui du coup à ce moment-là conserve son maillot de leader.
Le podium est complété par Leigrid hein, grâce à son 10 sur 10 au tir.
Il est à 9 aussi, mais il a été meilleur sur les skis sur ce week-end. Lui qu'on voyait un petit peu plus distancé sur le mois de décembre et revient un petit peu sur ce mois de janvier. C'est bien pour lui parce que on se souvient, c'est quand même lui, il jouait la bataille pour le titre l'année dernière avec Johannes Bö notamment.
Ouais, Quentin Fillon-Maillet qui réussit une 9e place.
C'est
ça. Qui ne le condamnait pas pour la poursuite.
Hein. Non, bah non, il était qu'à 29 secondes. Hein, ça reste assez serré hein, chez les hommes. C'était une 9e place qui limitait la casse malgré quand même deux fautes. Hein, c'est beaucoup pour lui. Hein. Donc on l'a vu bien meilleur, notamment au Grand Bornand ou le week-end dernier. Mais c'est bien pour la poursuite. Et la poursuite qui, du coup, va très bien se passer pour Quentin Fillon-Maillet le dimanche. A noter les Allemands qui font une belle performance. 4e et 5e pour Johannes Kuhn et Roman Riss. Les Allemands qu'on voyait
à domicile, hein, il fallait qu'ils réagissent. Ouais.
C'est ça, on les voyait très en difficulté l'année dernière. Et cette année, bah, déjà, Johannes Kuhn qui a gagné une victoire cette saison, c'était au Grand Bornand, si je crois bien. Et Roman Riss qui fait une belle 5e place. C'est important, surtout à domicile.
Ouais, on note quand même que les week-ends se suivent et se ressemblent pour Johannes Bö, 28e du sprint, ça le condamnait quasiment pour la poursuite. Hein. On en parle de cette poursuite, hein. Johannes Bö finit 21e, donc bien loin du podium. Une victoire, une course remportée par Quentin Fillon-Maillet, 3e poursuite de rang pour lui.
C'est ça, bah, Quentin Fillon-Maillet qui est exceptionnel pour l'instant sur ses courses en face-à-face. Sur Mastart, il est très bon. Et là, encore une fois, c'est sur une poursuite, il a montré qu'il était très performant. Le petit bémol, c'est le premier tir où il fait quand même deux fautes. Mais derrière, c'est du sans faute, c'est parfait. Il fait un superbe dernier tir. Là où Emilien Jacquelin s'est un petit peu craqué sur ce dernier tir. Trois fautes pour le
Français.
Trois fautes
et aussi apparemment une glisse un peu compliquée pour lui.
Ouais, on l'a vu, il était moins performant sur le ski.
Déçu
il était
à l'arrivée, alors un problème de matériel.
Ouais, de fartage peut-être sans doute, faudra voir si c'est... Normalement c'est pas physique parce qu'on l'a bien vu sur le sprint, ça allait très bien. Donc c'est dommage pour lui du coup qu'il laisse sa tunique jaune à Quentin Fillon-Maillet qui du coup se part de jaune. Il s'impose devant Sébastien Samuelsen et Tarjei Bø.
Et Loginov qui devait remporter cette course hein, puisque jusqu'au dernier tir il était vraiment largement en tête, mais sur ses trois dernières balles il en met trois à côté.
Et c'est ce
trois tours de pénalité et il offre la victoire à Quentin Fillon-Maillet.
C'est ça, il était largement au-dessus. Hein, on le voyait, il a fait, il était à 14 sur 15 avant le dernier tir. Il était largement en tête. Il avait deux balles de marge et pourtant, bah là, il a complètement craqué. Trois balles perdues, bêtement. Enfin, c'est le stress de faire le doublé. Alors pourtant, c'est un athlète qu'on connaît très expérimenté, qui a gagné notamment sur les championnats du monde, notamment. Donc c'est vraiment trois balles perdues. Il finit donc à 18 secondes. Ce qui fait que finalement il y en aurait une qui serait passée parmi les trois sur le dernier tir, bah, il aurait sans doute gagné. Donc c'est vraiment un petit peu un coup dur pour Loginov qui se console là par une cérémonie des fleurs, à mon avis, pour enlever sa frustration.
La bonne surprise pour nous. On note aussi la belle perf de Fabien Claude, 7e.
C'est ça, Fabien Claude, 7e, une sorte d'une course assez semblable à Quentin Fillon-Maillet où il commence sur un tir couché assez compliqué, mais il s'est bien repris sur les trois derniers tirs, donc sur le deuxième couché et sur les debouts, et il finit une belle 7e place. C'est très satisfaisant pour lui à l'approche des championnats à la poche des Jeux Olympiques, lui, parce que ça, il va sans doute jouer sa place avec Antonin Guigonès, Simon Détieux pour les relais et pour possiblement aussi les sélections, parce qu'on sait que c'est un nombre réduit, ils peuvent pas mettre n'importe autant de monde qu'ils veulent sur les poursuites, sur le sprint, tout ça. Donc c'est important d'avoir fait une belle performance et donc on peut le féliciter.
Allez, un mot des deux relais du samedi. Le relais mixte pour la Norvège.
C'est ça, le relais mixte. Une grosse domination encore une fois norvégienne. C'était assez logique. Hein. Tarjei Bø, Johannes Bø, Tandrevold, Roiseland. Pour l'instant, c'est du très lourd et ils n'ont pas mis les seconds couteaux comme l'a fait la France finalement. Et résultat, ça a très bien réussi. Sur les skis, c'est fort, donc forcément, ça fait une victoire. La France finit sur le podium, mais très loin des Norvégiens, à plus de 2 minutes. Guigona, Détieux et Anaïs Bescon ont plutôt bien tenu, mais c'est surtout Julia Simon qui fait un dernier relais impressionnant pour venir à chercher la troisième
podium.
Place. Le podium, c'est intéressant. Intercalé entre la Norvège et la France, et la Biélorussie qui, du coup, en réalise encore une bonne performance. Labatso, Smolski, notamment chez les hommes. Et c'était, encore une fois, Alim Bekava et Isola, je crois, qui étaient pour les femmes. Donc, c'est encore une belle performance pour la Biélorussie. mais la France conserve un podium, donc c'est bon pour nous.
Et en single mixte, on a vu que les Russes étaient en forme avec Babikov et Restova. Qui l'emporte?
C'est ça.
Les Français sont très loin.
Hein. Oui, les Français se sont complètement ratés entre Fabien Claude et Anaïs Chevalier. Il y a eu des tours de pénalité, c'était pas très beau à voir, mais les Russes se sont le mieux sortis, disons-le, avec des conditions assez compliquées, mais ils ont réussi à faire la différence, notamment sur les skis où ils ont été supérieurs, notamment aux Autrichiens de Simon Eder et Lisa Teresa Hauser, qui sont un petit peu moins rapides sur les skis. L'Autriche qui du coup fait une belle deuxième place, et complétée par l'Ukraine de Tchichenko et de Blaschko. Donc pas de Norvégien, pas de Français, pas d'Allemand, c'est une petite surprise quand même.
Ouais, prochain rendez-vous, ça démarre mercredi, 7e étape de Coupe du Monde, on sera à Ruhpolding.
Toujours
en Allemagne,
exactement.
La mecque du biathlon, on attend énormément de monde. Allez, on va passer à l'alpin maintenant et on va commencer par les garçons. On était à Adelboden avec un slalom géant, une occasion pour Pinturo de reprendre quelques points. Mais c'est raté.
Que nenni, exactement. Le maître pour l'instant du classement général et de cette saison, il s'appelle Marco Odermatt, il est suisse.
Il a gagné chez lui.
Il a gagné chez lui, il impose vraiment sa domination. Il termine devant Manuel Feller et Alexis Pinturo, du coup, qui a même fait un podium. Mais malheureusement, Marco Odermatt est encore une fois largement au-dessus, très très fort cette année, pratiquement du double du point sur le deuxième au classement général. Il est vraiment super impressionnant cette année.
Ouais, c'était un week-end où Alexis pouvait prendre des points, puisque le lendemain c'était le slalom. Malheureusement, cinquième de la première manche, il sort en deuxième manche, il laisse la victoire à Johannes Strolz.
C'est ça, l'Autrichien, donc une petite surprise, hein, Johannes Strolz qu'on voyait pas trop cette saison.
Qu'on connaît pas,
on connaît pas, on va se cacher, on le connaît pas bien. Et c'est une belle victoire pour lui. Il s'impose devant Manuel Feller, encore une fois, deuxième place pour lui, deuxième place. Et Linus Strasser, l'Allemand. Donc les Français se sont complètement ratés. Pinturo en deuxième manche est sorti, Noël a enfourché en première manche. Rien de bon pour les Français de ce côté sur ce slalom.
Allez, on passe chez les filles. Là aussi, week-end de discipline technique et gros week-end pour la Slovaque Petra Vlova, hein, qui s'impose d'abord à Zagreb, puis à Kranjska-Gora sur le slalom.
C'est ça, donc il y avait un slalom à Zagreb, une belle qui a été lui disputée pour les femmes et pas chez les hommes, hein, avec notamment du coup la blessure de Victor Mufajandé qui s'est fracturé la cheville.
Et peu de neige sur cette piste.
C'est
hein.
Ça, le 19e de la première manche, ce qui est sur l'herbe, donc elle a été décidément annulé, même si Victor Mufajandé du coup était parti lui dans les premiers, donc il s'est blessé. C'est un gros coup dur pour le Français sur des conditions c'est inadmissible à ce niveau là on voit la blessure et donc les rêves donc de Jeux Olympiques s'envoler pour lui qui avait en 2018 réalisé une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, donc c'est vraiment un dommage pour lui. On espère que la saison est terminée, que l'année prochaine il reviendra plus fort. Mais à Zagreb, donc Petra Vlova qui sur les disciplines techniques est vraiment largement au-dessus. Michaela Schifrin fait une deuxième place et Linsberger, l'Autrichienne, troisième. On l'a vu, même à Linz, elle a gagné la plupart des slaloms cette année. Et donc à Kranjska-Gora, il y avait encore un slalom. Mais juste avant, c'est un slalom géant et c'est la Suédoise Sara Hector qui s'est imposée devant Tessa Worley.
Tessa Worley en pleine forme en cette nouvelle année après sa victoire à Linz, deuxième place.
Un nouveau podium, une belle deuxième place. C'était de très bonnes perspectives pour les Jeux Olympiques. Elle est en forme, donc ça fait plaisir. Elle finit deuxième, Marta Bassino complète le podium. Donc c'est vraiment super pour Tessa. Et du coup le slalom, c'était Petra Vlova qui s'est imposée devant
Wendy Holdener, la Suissesse.
Exactement, et la Suédoise Anna Sven Larsson. Au classement, Petra Vlova revient sur Michaela Schifrin. 866 points pour Schifrin, 831 pour Vlova. À noter que Sofia Goja est quand même encore troisième avec 657 points. Surtout que des épreuves plus de descente, de vitesse seront à disputer, notamment à Zoschensee, notamment donc, malgré un slalom juste avant à Schladming. Donc Goggia peut encore venir.
Très bien, allez, on ferme la page sport d'hiver, on ouvre la page football, c'est le Prune Football Club.
Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on attaque avec la Ligue 1, 20e journée ce week-end. On s'intéresse à nos Canaries qui recevaient un gros du championnat, l'AS Monaco. FC Nantes, AS Monaco, 0-0.
C'est ça, ben un 0-0 intéressant où les Monégasques ont souffert notamment sur les blessures. Hein. Trois sorties sur blessures pendant le match, ça a été compliqué du coup pour les Monégasques qui viennent d'avoir leur nouvel entraîneur, Philippe Clément, l'ancien de Bruges. C'est un match finalement où les Monégasques ont eu des occasions, notamment par Mayron Boisdu en fin de match où il a loupé une grosse occasion.
Après sa blessure.
Juste avant sa blessure et c'est même si donc les Monégasques ont dominé, les gardiens ont fait le travail et Nantes arrache 0-0 face à une grosse écurie de le championnat, donc c'est un bon point pris par les Nantais.
Ouais, c'est ce qui me semble. Hein. Nantes est 9e après ce match, donc reste dans la première partie. Du championnat, on parle du voisin Rennes. La mauvaise série se poursuit, Jérém,
voilà,
pour Rennes.
Tout à fait, la nouvelle série de Rennes se continue et surtout contre quatre concurrents principaux après Lille, Monaco et Nice. C'est Lens qui a stoppé Rennes dans sa poursuite pour la course à l'Europe. Rennes qui a une stat sur ce match-là très insatisfaisante. Rennes était depuis le début de la saison était motivé par sa qualité offensive. Là, sur ce match-là, on fait zéro tir cadré sur un match-là et on perd bêtement sur un but d'un ex-Rennais qui est Wesley Saïd qui nous punit à la fin du match à la 80e minute.
Ouais. Dans le Money Time,
c'est Saïd qui est un petit peu pour l'instant le héros du Money Time, enfin des rentrées, parce qu'il a marqué, je crois, c'est sur les 4 derniers matchs où il est rentré, c'est 4 buts. Donc c'est Saïd qui est assez en forme en ce moment avec Lens et ça leur fait du bien au Lensois pour se relancer.
Ouais, bien servi par Klaus, hein, celui dont on parle pour éventuellement intégrer l'équipe de France. Et très très beau centre.
Et donc Klaus, sur ce match-là, devient le deuxième version du championnat derrière Mbappé.
Et ben voilà, il va falloir
très intéressant
le surveiller. Ouais, moi j'aime bien ce profil. Alors ouais, c'est vrai que c'est un joueur un peu atypique, c'est difficile de le sélectionner à 29 ans en équipe de France. Mais
ce joueur-là est un bagarreur, ça n'a jamais l'affaire et il crée aussi des solutions, trouve des choses tout en étant humble et restant un guerrier sur le terrain.
Ouais, et puis l'équipe de France a besoin d'un bon pied droit hein, sur ce côté pour centrer. Ça fait quelques temps hein, qu'on cherche cet arrière latéral qui centre avec un centre redoutable. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme match? Bordeaux-Marseille, un match qui sentait un match vintage, ça.
Et du coup, pour Bordeaux-Marseille, Marseille a cassé la malédiction du blasphème
enfin
à Bordeaux. Depuis 44 ans, depuis l'année 77, Marseille a enfin gagné à Bordeaux grâce à Serge Zunder, le Turc de Marseille, qui a marqué en fin de match pour clôturer cette belle prestation marseillaise. Malgré que Bordeaux se soit bien défendu, qui Bordeaux était encore un effectif très réduit, avec un Costil titularisé à titre exceptionnel pour ce match-là. Et le seul but de Marseille a été marqué sur la seule erreur de Costil du match.
Ouais, donc c'est un petit peu dommage pour les Bordelais, mais vu leur situation, c'est très compliqué. Mais un coup de chapeau aussi aux Marseillais d'avoir enfin su briser ça. Et puis, vous pensez à Bernard Tapie et René Malvin notamment, qui étaient des grands supporters qui sont décédés l'année dernière, très récemment, et qui du coup, doivent ressortir de là-haut, très belle, un peu pour leur rendre hommage. Le gros match du week-end, c'était le fameux Lyon-PSG au Groupama Stadium, donc sans vraiment supporters, hein, parce que Aulas ne voulait pas que de faire de sélection entre ses abonnés.
Et les supporters parisiens n'étaient pas conviés non plus.
Non plus. Un beau match nul entre Lyon et Paris Saint-Germain, ouais, partout. Lucas Paqueta ouvre le score à la 8e minute de jeu. Lyon arrive à tenir jusqu'à la 76e et le but de Thilo Kehrer. On a vu un beau combat entre les deux équipes. Mbappé touche deux fois les montants. Une première fois sur juste avant la mi-temps sur une frappe enveloppée qui est poteau extérieur et sur un coup franc en toute fin de match qui finit pareil poteau extérieur. Donc un match finalement qui arrange plutôt le Paris Saint-Germain alors que Lyon eux continuent de s'enfoncer dans le ventre mou même si ça reste un bon point face au PSG.
Et surtout pour la bonne nouvelle du Paris, c'est que son milieu de terrain avec Verratti, Michou et Simon a été très impressionnant, et avec Verratti au maître l'homme et Michou et Simon qui ont des petits jeunes qui ont des gros potentiels qui ont enfin pu être utilisés sur un grand match et qui ont prouvé toute leur qualité.
Ils sont entrés en jeu, mais
ils ont montré leur qualité par rapport à ce qu'ils ont passé.
Et quand on voit Paredes, Ander Herrera ou Jorginho Wijnaldum, on se dit que ces deux petits gamins, ils méritent largement leur place de titulaire, surtout en Ligue 1, voilà. Parce qu'ils ont vraiment montré. Edouard Michou qui fait notamment une passe décisive pour Thilo Kehrer. On l'a vraiment vu, c'est les deux petits minots, les deux petits jeunes, bien très bien performés pour leur rentrée, surtout en plus face à Lyon qui était performant. Donc c'est vraiment de bon augure pour le Paris Saint-Germain d'une certaine manière, où finalement la jeunesse, on leur peut leur faire confiance, c'est là où c'est un peu compliqué pour certains.
Et pourquoi pas mettre des petits Parisiens à la place des pétrodollars.
Oui, c'est ça, exactement. Et ça leur économisera quelques sous et beaucoup. Hein, comme Paredes à 47 millions, hein, on s'en serait bien passé.
Tout à fait.
Allez, prochain match, un résultat qui fait mal à la tête à nos amis brestois. Une défaite à domicile face à Nice.
Voilà.
3-0.
Très grosse défaite de Brest. 3-0. Qui pourtant, Brest...
qui avait le ballon. Hein.
Qui avait le ballon en première mi-temps, qui dominait. Qui se sont fait surprendre en fin de première mi-temps par un but. Et qui d'ailleurs,
Dolberg,
qui après Nice se retrouvait à 10. Et malgré ça, Nice a reçu renversé la barre grâce à Nice Delors et pour finir à 3-0.
Et Gouiri, leur buteur maison, qui inscrit le but.
Et Nice qui du coup conserve leur deuxième place au classement. La différence de but de Marseille qui a un match en moins joué face à Lyon. Donc qui se profile du coup bien tout ça pour... le podium en fin d'année.
Et belle saison pour Galtier, hein, après ses bons résultats à Lille. Hein, il vient à Nice.
Il y a un vrai projet à Nice.
Il confirme que Galtier, c'est un très bon coach et que tu lui mets n'importe quelle équipe, il y arrive.
Quand il y a un bon projet derrière. Hein,
voilà.
Tu le mets à Nantes, à mon avis, il ne fait pas deuxième. Hein.
Restera-t-il à Nice? Parce que j'imagine que les sirènes étrangères vont...
Oui,
on
mais c'est un entraîneur français, il se sent bien en Ligue 1. Pour l'instant, il a un très bon projet avec Nice, il a l'argent derrière. Il n'y a aucun souci, il restera encore 2-3 ans à Nice.
Allez, on ne développera pas Clermont-Reims 0-0. Et puis les autres matchs, ils n'ont pas eu lieu.
Reporté, Covid.
Et sinon, la belle performance de Strasbourg face à Metz, 2-0. Et qui Strasbourg, mine de rien, fait pas de bruit, mais remonte très fort au classement.
Ils sont 8e.
Et se place en total outsider. Et sur leurs 9 derniers matchs en Ligue 1, c'est seulement 2 défaites contre Rennes et contre Marseille.
Bon travail de Julien Stéphan.
Hein. L'ancien entraîneur Rennais, c'est vraiment un très bon entraîneur. On peut vraiment souligner ses bonnes performances avec Strasbourg.
Ouais, un départ un peu poussif pour les Strasbourgeois, mais ça y est.
Mais ça revient. La passe Stéphan.
La menace est apprise par Stéphan et puis c'est bon.
C'est plutôt la choucroute là-bas.
Placé pour jouer l'Europe actuellement, les Strasbourgeois. Allez, on passe à l'étranger, Jérém, et puis on va aller en Espagne.
Alors en Espagne, on va commencer du coup par la Liga avec la victoire de la Sociedad après 2 mois de match sans victoire. C'est Jorge Azabal qui a marqué à la 13e minute de jeu contre le Celta Vigo. À part ça, c'était pas un grand match, mais au moins la Sociedad a enfin.
Il se relance un petit peu pour la course à la Champions League.
Tout à fait. Après, on va ensuite aller du côté de Grenade, où Grenade affrontait le Barcelone de Xavi. Et du coup, Barcelone s'est encore cassé les dents en Liga, et qui, après un match nul un partout, après avoir mené au score grâce à Luc de Jong, c'est Antonio Puertas qui a marqué à la 89e minute pour clôturer ce match nul de Barcelone, qui était vraiment nul, avec une stat très intéressante, 13 tirs, seulement un cadré.
Ah, c'est ça, en plus ils ont pris un rouge par Gavi en fin de match.
Voilà.
Ils se sont fait un petit peu avoir, mais c'est ça que pour Barça, c'est dur en ce moment.
C'est très compliqué, on peut même imaginer une saison sans Coupe d'Europe pour le Barça la saison prochaine.
Hein.
Vu le niveau des équipes au-dessus, alors peut-être ils iront peut-être en Europa League ou en Conference League, mais la Ligue des Champions, je pense que Si je dis pas que c'est oublié, mais va falloir faire attention.
C'est ça.
Et allez, on enchaîne coup, avec d'autres résultats.
On va partir sur le dauphin du Real de Madrid, c'est-à-dire le FC Séville, qui a gagné seulement 1-0 grâce à un but de Rafa Mir. Et là aussi, une statistique pas très satisfaisante. Seulement un but, le seul but qui a été marqué, c'est sur sortie cadrée, sur 10 tirs.
Bah, au moins, il gagne. Voilà. Ça c'est comparé au Barça, c'est intéressant pour les Sévillans qui du coup restent au contact du Real Madrid avec deux matchs en moins.
Voilà, et qui le Real Madrid qui après leur défaite en Coupe du Roi en coupe récemment, ils ont regagné grâce à leur duo favori Benzema et Vinicius, deux buts à eux deux et un petit but de Gonzalo Guedes en fin de match qui pour Valence qui aura rien changé au
seul
match. Console simplement.
C'est ça, donc le Real Madrid conserve largement sa place de leader, même si Séville est à 5 points avec un match en retard, ils peuvent revenir à 2 points. Ces deux clubs-là sont largement devant. Betis Séville qui est 3ème à 34 points, l'Atlético 4ème à 33 points, Sociedad à 33 et Barcelone 32.
Entre 3ème et le 7ème, ils se tiennent à 3 points.
C'est ça, donc c'est très serré pour la 3ème place en Espagne.
Et après ça, le Real qui a 29 points est quand même à 17 points d'avance au Barça qui est 6ème.
Oui, non mais ça, faut pas en parler ça.
On va pas parler de l'Atlético, mais ils ont été faire le nul à Villarreal.
C'est un bon match. Alors, 2-2, c'est Correa qui avait ouvert le score, égalisation de Potores. Ouais. Moreno
en forme,
qui a...
Correa en ce moment. Hein.
C'est ça, très en forme.
Et en plus, Correa sera sublime du centre du terrain en reprise de l'action tout droit, passe latérale, et il tire tout droit sur le but du centre central.
Et un Français a été buteur dans ce match.
Kondogbia. Ah non, Kondogbia, il est.
Kondogbia a marqué et après, s'est fait expulser.
Oui, c'est pas ça, on n'en parlera pas.
Allez, on passe en Allemagne. Il y avait des surprises aussi.
Ah oui, c'est ça. Grosse surprise en Allemagne où la journée a débuté par le match entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach. Ouverture du score par l'habituel Lewandowski à 17 minutes et qui, après, très rapidement, à peine plus bizarre, par Neuhaus et Leiner en 4 minutes, ont marqué les deux buts pour Gladbach et derrière le Bayern n'a pas su inverser la tendance et pour gagner ce match.
Bon, ils ont encore un petit peu en tête de cette Bundesliga, même si Dortmund a su renverser Francfort.
Oui, mais ouais. Dortmund qui, même s'ils ont su renverser Dortmund, Francfort montre beaucoup de lacunes défensives et milieu de terrain. Et sans un Land qui n'était pas vraiment là aujourd'hui.
Qui a peut-être plus la tête à Dortmund.
Voilà, c'est quand même très compliqué.
C'est très compliqué, même si du coup ils arrivent à gagner. Leipzig qui fait une bonne performance 4-1 face à Mayence. Ils se relancent bien, qu'ils sont en difficulté un peu cette année.
C'est Hoffenheim la surprise de ce début de championnat. Hein. Troisième.
Voilà,
le TSG Hoffenheim. Victoire 3-1 contre Augsbourg. Les buts de Bebou et de Raum en toute fin de match, ça les place bien au classement.
Tout à fait. Et juste petit stat pour le championnat de Bundesliga, c'est sur la victoire de Cologne face au Hertha Berlin. Anthony Modeste est devenu le meilleur buteur français dans la Bundesliga.
12 buts, 12 buts. À 8 longueurs de Robert Lewandowski, hein, qui en est à 20 devant un certain Patrick Schick. Hein.
C'est ça.
Voilà.
Profil qui pourrait intéresser des clubs français, ça, c'est Patrick Schick, ça doit pas coûter très cher. Et puis ça met des bas.
Actuellement, ça a quand même une belle cote. Actuellement, ça a quand même une belle cote.
Le Tchèque a une belle cote, ouais.
Il a une très belle cote. Il y a des gros. Je crois que c'était. Je sais plus, c'était Manchester City. Il y avait une info comme ça qui serait potentiellement dessus. Enfin, il y a vraiment des. Il commence vraiment à faire vraiment parler de lui cette saison.
Il faudra signer un gros tchèque.
Ouais. Il faudra signer un gros tchèque, ouais, pour un joueur de 26 ans, qui aura 26 ans le 24 janvier. Donc, ouais, il y a quelque chose peut-être.
Non mais il a encore un petit peu de marge
à regarder.
On peut parler
Suite à sa longue indisponibilité, 13 buts. Alors il va falloir se réveiller pour le Norvégien. Mais
ouais, mais en même temps, en fin de compte, enfin pas en fin de contrat, mais avec une très très demandée, avec la fameuse clause là, 75 millions. Donc c'est
voilà.
Bon, on va parler vite fait en cup
et la Serie A, Inter Lazio. Il y avait un gros choc. J'aime
la Serie A, Inter Lazio. L'Inter a battu péniblement Lazio grâce à un but de leur défenseur Bastoni et d'un gros coup de crâne de Skriniar un peu à bord de jeu, et Immobilier a égalisé,
réduit le score, a réduit le score
5 minutes après Bastoni. Mais l'Inter s'en sort miraculeusement sur ce match compliqué face à Lazio.
L'équipe en forme, c'est l'AC Milan qui revient bien là,
l'AC Milan qui revient à un point de l'Inter après avoir gagné, battu Venise 3-0 grâce à un but de Zlatan à la deuxième minute et à un doublé de, du nouveau international français Théo Hernandez à la but 48e minute. Et sur un pénalty à la 52e minute.
Ouais, doublé de Théo Hernandez, un latéral qui marque beaucoup.
Et qui est plus Hernandez et le nouveau capitaine de AC Milan depuis que leur défenseur danois est blessé.
Ça manque. Les deux gros cartons en Serie A, c'est la victoire de l'Atalanta Bergame, qui du coup reste 4e, 6-2 face à l'Udinese.
Et le match fou entre la Roma de Mourinho et la Juve de Allegri.
3-1 la Roma.
3-4 pour la Juve. Et qui la Roma dominait 3-1 à la Juve. Et la Juve, en 7 minutes, a repassé totalement le score pour gagner 4-3 finalement.
Locatelli, Kulusevski et Deschiglio ont marqué ces 3 buts pour passer devant la Roma. Info de la Juve, c'est Federico Chiesa, sa saison est finie. Voilà, notamment pour la Juve, donc c'est un peu un coup dur pour l'Italie.
Gros coup dur, sachant que saison finie et puis un barrage, deux matchs de barrage pour la Coupe du Monde sans Chiesa, ça va être embêtant.
Ça va être compliqué pour l'Italie.
Surtout quand on l'a vu qu'il était performant à l'Euro.
Ah, il m'avait énormément plus la révélation pour moi de cette compétition.
C'est ça. On va parler vite fait de la
CAN. Ça a démarré hier soir.
Exactement, la CAN. Ça a commencé hier par Cameroun.
Avec du bon, avec du monde dans les tribunes.
Ah bah c'est oui, bah c'est logique. Hein. Là-bas, ça se passe
il y a
très
pas de
bien.
COVID, là-bas.
Il y a, c'est ça. Il y a moins le Covid et tout ça. Il n'y a pas de restrictions comme en Europe. C'est la Cameroun qui s'impose devant le Burkina Faso. Même si le Burkina avait ouvert le score par Sangaré, c'est un doublé d'Aboubakar sur penalty qui va permettre au Cameroun de s'imposer. Le Cameroun qui commence bien sa CAN.
C'est ça. Et sur le deuxième match de ce groupe-là, c'est le Cap-Vert qui était s'imposé face à l'Éthiopie, 1-0.
Aujourd'hui, il y avait le groupe B, c'était Sénégal qui bat le Zimbabwe 1-0 grâce au but de Sadio Mané sur pénalty en toute fin de match, 97e. C'est le Sénégal qui du coup commence poussivement cette CAN. Dans le même groupe, c'est la Guinée qui s'impose 1-0 face au Malawi, but de Silla. La Guinée,
le Toulousain
le Toulousain, Issiaga Silla, qu'on connaît bien. C'est connu en Ligue 1, qui du coup, le Guinée commence bien sa CAN. Le Maroc aussi,
le Maroc, groupe C. Face au Ghana.
Il vient de tomber.
Avec un petit duo, une confrontation entre les deux Rennais, Aguerre et Souleymana. Le Maroc de Aguerre, grâce à Sofiane Boufal, qui a marqué le but de la victoire 1-0.
Et ce soir, il y aura Comores-Gabon dans le même groupe du Maroc et du Ghana.
Et le Gabon qui est diminué avec Aubameyang et d'autres joueurs en Covid.
C'est ça, donc ça va être le Gabon privé de sa superstar Aubameyang, ça va être plus compliqué, même si face aux Comores quand même, ça devrait le faire pour le Gabon.
Le joueur de l'Ajax, il est dans quel...
Le
buteur de l'Ajax, il joue pour quelle sélection?
Le buteur de l'Ajax
Ziyech.
Non.
Robey.
Le meilleur buteur de la Ligue des Champions.
Il joue au Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire,
et la Côte d'Ivoire joue mercredi face à la Guinée équatoriale à 20h. Donc il joue dans le groupe.
Il a tellement pas un nom ivoirien, Sébastien.
Il est français, il avait la double nationalité, il a choisi la Côte d'Ivoire même s'il aurait pu choisir la France. Dommage pour l'équipe de France, mais en tout cas c'est un gros joueur pour la Côte d'Ivoire qui du coup fait partie des favoris de cette CAN.
Elle continue encore pendant un mois, donc on en reparle la semaine prochaine. On a été complet sur le foot.
Il y a juste les matchs de Cup en Angleterre, avec quelques surprises. La défaite notamment de Arsenal face à Nottingham Forest, 1-0. C'est compliqué.
Surtout avec une stat affolante pour Arsenal. Arsenal qui a dominé tout match à 67% de domination. Seulement 10 tirs et 0 cadré.
C'est ça. Et une autre surprise, c'est Newcastle qui a encore défait toujours face à Cambridge. Gros coup dur pour le club récemment racheté. C'est une victoire cette saison, c'est vraiment très compliqué
Et Cambridge qui est une D4 et les stats de Newcastle sur ce jeu-là, c'est 23 tirs, 9 cadrés.
C'est ça. De l'autre côté, les gros favoris, City, Liverpool, Tottenham,
Leicester,
ont gagné. United joue ce soir face à Aston Villa.
Voilà. Match compliqué.
C'est parfait. Allez, on ferme la page foot, on ouvre la page multisport. C'est Multizone.
Money time. Multizone. Tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on va attaquer la page multizone avec du handball. Jérémy, hier, les Neptunes de Nantes recevaient en European League les Allemandes de Bietigheim pour une courte défaite, malheureusement, pour voilà. Les Roses.
Une défaite à 1-2, 25-27. Et le seul mot qu'on peut dire de ce match-là, c'est le regret. Le regret sur le début de match où elles étaient trop poussives, pas assez tranchantes, où elles n'ont pas été assez tranchantes dès le début du match. Et ce qui a créé du coup l'avantage pour Bietigheim qui sont montés à des plus 3 et des plus 4. Et surtout le plus grand regret, c'est Orlan Ahanda, notre nouvelle internationale française, qui a fait un non-match, seulement 3 buts, beaucoup d'occasions perdues, pas de passes faites comme il fallait. Des marchés, des fautes techniques qu'on ne devait pas avoir à ce niveau-là de la compétition. Et surtout, un gros problème au niveau des piliers de...
Ouais, il n'y a aucun but de nos deux pivots. Hein, deux buts des pivots.
Voilà, Loquet et Mitrovic ont marqué exactement deux buts et gros problème.
Donc un déficit dans ce secteur du jeu, effectivement, pour les Roses. Guillaume Sorunet était quand même fier de ses troupes à la fin de ce match. Une équipe niveau Champions League, Bietigheim, voilà. Il faut le rappeler quand
même. Et grâce à une très bonne défense des Neptunes, et surtout à une grande gardienne malgré sa taille.
Adriana Piacek, voilà, ouais.
Elle a fait 16 arrêts.
16 arrêts, c'est impressionnant.
Dont déjà 9 à la mi-temps.
Ouais, une énorme très première fort. Mi-temps qui évidemment a laissé les Neptunes dans le match. Hein. Bon voilà, après il aura manqué une Nathalie Hagmann plus à l'aise sur son aile. Hein. On l'a vu un peu empruntée de réussite.
Et seulement 5 buts marqués, dont un jeu à 7 mètres. Et après, il faut dire qu'elle n'a pas été très sollicitée pendant le match aussi.
Ouais, c'est plutôt les Scandinaves. Hein. Stromberg qui a tiré son épingle du jeu avec 5 buts.
Et Fristad.
Fried Bergström, ouais. Stad, 5 buts aussi.
Voilà.
Chez les hommes, évidemment, ça jouait pas, mais match de préparation pour les Bleus qui étaient en Allemagne. Dans une salle sans spectateurs.
Et malgré un très très bon premier mi-temps des Français, les Français sont fait surprendre par l'Allemagne en fin de match où l'Allemagne a fini par renverser la vapeur et on peut s'attendre à un très gros morceau de l'Allemagne et attention à eux pour l'Euro.
Ouais, l'Allemagne dont il faudra se méfier, mais bon, les Français ont été dans le match hein, jusqu'au bout. Malheureusement, les Allemands ont gagné à la dernière minute. Allez, on va enchaîner avec le tennis, Charles. C'est les tournois australiens d'avant Australian Open.
C'est ça, c'est juste avant l'Open d'Australie. C'est les tournois de préparation, mais ça
et
fait Cocorico
quand même des titres.
Et Cocorico, c'est Gaël Monfils qui remporte son 11e titre cette saison, dans sa carrière. Une belle victoire en finale face à Karen Khachanov.
Ouais,
un gros client, hein. C'était pas simple, hein, Karen Khachanov. On le connaît, il a été top 10, c'est quand même un gros client. Une victoire 6-4-6-4, très solide, le Gaël national. Il remporte son 11e titre. C'est une belle performance en prévision du l'Open d'Australie.
On espère le voir en quart.
On espère au moins déjà le voir en deuxième semaine et potentiellement en quart. Et s'il y a un tableau favorable, qui sait, on ne sait jamais. Si Novak Djokovic ne fait pas l'Open d'Australie, on ne sait pas encore, pourquoi pas une place se libérer parmi les favoris. Donc Gaël Monfils, on peut y croire, une belle performance à l'Open d'Australie.
Ouais. Ouais, c'est pas le seul à avoir levé un trophée cette semaine, il y a aussi Nadal.
Exactement, Rafael Nadal qui s'impose donc au tournoi de Melbourne, ouais. Délai 1 pour Gaël Monfils. C'était un tournoi assez aisé,
ouais,
il bat
un
qualifié, Cressy, l'américain, le seul vraiment opposant, ça a été Ru Suvohari, le finlandais qu'on connaît un peu, qui est top 100 mondial. Enfin voilà, donc c'était
il gagne
assez
un match
facile.
Par forfait aussi. Il a joué 3 matchs pour finalement gagner le titre.
C'était assez aisé pour lui qui remporte du coup son 89e titre en carrière. C'est
ça
fait beaucoup.
Un petit chèque au passage, j'imagine.
Un petit chèque aussi, mais bon, ça, je pense que ça lui change changera pas grand chose à lui. Mais à noter que c'est son 19e titre d'affilée en termes d'année. C'est-à-dire qu'il a gagné un titre, ça fait 19 ans qu'il gagne au moins un titre chaque année. C'est le recordman maintenant seul en tête. C'est impressionnant de voir sa longévité qu'il a, alors qu'on lui prédisait pourtant un avenir assez compliqué vu le niveau, le jeu physique qu'il doit avoir.
Il est toujours au top malgré les différentes blessures qu'il a eues qui l'ont stoppé dans sa carrière.
C'est ça. Un petit mot chez les femmes, c'est Simona Halep, la Roumaine, qu'on revoit enfin un petit peu performante. Une victoire à Melbourne 1 en finale face à Kudermetova. Elle qui gagne du coup 5 places au classement WTA du coup, et se repositionne 15e.
Ashley Barty aussi qui gagne chez elle.
Ashley Barty, bah oui, l'Australienne, elle, qu'on connaît bien, a remporté Adelaide 1 face à Iga Swiatek 6-2-6-4. Barty qui fera forcément partie des grandes favorites pour son tournoi national.
Et donc Joko, donc, qui est sorti de l'hôtel, qui va pouvoir normalement préparer le tournoi, mais...
Il s'est entraîné, mais... On ne sait pas trop encore parce que les autorités gouvernementales australiennes peuvent encore intervenir, notamment le ministère de l'immigration qui peut potentiellement lui retirer, son visa qui a été pour l'instant temporairement validé. Donc ça va être assez encore une affaire à suivre.
Affaire à suivre dans les prochains jours pour savoir si Joko va pouvoir.
Mais qui ne redore pas son image, déjà très entachée. Au long de sa carrière, ça fait encore un petit peu un bad buzz pour lui.
Malheureusement.
Allez, on change de terrain, on va parler de sport méca, c'est le Dakar qui nous intéresse, Jérém.
Et du coup, au Dakar, pour la 8ème étape, c'est le Suédois Mathias Ekström qui signe son premier succès sur le Dakar.
En auto,
En auto, bien sûr. Le Suédois devant son coéquipier chez Audi, Stefan Peter Hansel.
Le réveil des Audi, enfin. Voilà. Une première semaine compliquée.
Et encore Cocorico, le BRX Hunter de Sébastien Loeb qui termine 3ème. Loeb qui, sur ses 4 dernières étapes, est toujours dans les 3 premiers. Et grâce à cette performance, Loeb reprend 7 minutes à Nasser Al-Attiyah qui est toujours le large leader du Dakar.
Ouais, avec 37 minutes d'avance. Enfin, 38
37
quasiment.
Minutes devant Sébastien Loeb. Et Loeb qui a 16 minutes d'avance sur un autre homme du golf, c'est le Saoudien Al-Raji.
Exactement, donc avec une bonne grosse quinzaine de minutes d'avance. Donc Loeb qui pour l'instant peut toujours rêver potentiellement de la victoire, on sait jamais. Il reste au contact un petit peu loin, mais il reste au contact, donc c'est bien pour Sébastien Loeb.
Ouais,
qui a gagné
Peter
notamment
Ansel,
la 7ème étape.
Et Peter Ansel qui dit on ne gagne pas le Dakar, c'est les autres qui le perdent. Donc si Sébastien Loeb veut gagner le Dakar, qui reste en piste en espérant que Al-Attiyah se prenne une dune. Mais...
Parce que c'est ce qui est parti à 7 minutes d'écart. Il est en bon chemin.
C'est ça. Et côté moto, on a eu la belle performance, la 7ème étape qui est remportée par le français Van Beveren, qui a remporté la 7ème étape. La 8ème étape cette année, aujourd'hui, a été remportée par Sunderland, le
qui
britannique.
Qui reprend le lead.
Du coup, reprend le lead devant Wolkner, l'autrichien.
Et puis Van
le français
Beveren
est 3ème à 4 minutes.
Voilà.
C'est encore très serré côté moto.
Ouais, c'est vraiment très serré. Les 4 premiers sont vraiment très serrés, ça joue à 5-6 minutes chacun, c'est vraiment très très serré.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, reste 5 étapes, donc attention, tout peut arriver dans un Dakar, l'Attiyah peut casser la voiture et perdre le rallye, comme c'est arrivé à tant d'autres.
Tout à fait.
Allez, un mot de rugby et de top 14, Charles.
Exactement, c'était la journée top 14, malheureusement entachée par de nombreux matchs reportés. On pense notamment à la journée du dimanche avec Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier. Mais ça jouait bien le samedi avec une belle victoire notamment des Racing Men qui se reprennent face à Clermont, une victoire 33-28. Les Racing Men qui ont très bien notamment fait une belle seconde période avec notamment deux essais de Emery et de Loret. Les Clermontois, malgré une pénalité en fin de match de Morgan Parra, n'ont pas réussi à rivaliser en seconde période. Les Racing Men donc s'imposent et reviennent un peu sur Clermont.
C'est ça.
Les Bordeaux-Bègles qui continuent son ascension, toujours premier, avec une nouvelle victoire. Cette fois, c'est face à Brive. Une victoire à l'extérieur, avec notamment un essai pour Cameron Vauquie. Loukou a très bon au pied, a réussi les pénalités et la transformation. Il s'impose 22-19, donc ça va être un match très serré. Mais Bordeaux qui continue, donc ça être, de faire la course en tête. Castres qui s'impose 15-9 face au Stade français. C'était une victoire grâce aux pénalités, notamment il y a un drop de Dumora, Botica qui est très performant au pied. Malheureusement, le Stade français ça continue de rester loin derrière et à mon avis de ne pas espérer jouer les playoffs de cette saison de top 14. Ça va être, c'est compliqué pour le Stade français. La belle victoire de Perpignan face à Biarritz, 25-23. C'était important face à un duel de bas de classement, mais des duels toujours très intéressants entre les deux équipes du Sud. Melvin Jaminet a transformé la pénalité à la 76e minute, la dernière, qui permettait à ce moment-là de Perpignan de repasser devant Biarritz. Les Perpignanais, du coup, qui consolident leur 11e place et s'éloignent du.
Et du coup, le gros quatuor du jour de Lyon face à Pau, 35-10.
Exactement. Une belle performance du Loup qui, du coup, se place 5e au classement.
Qu'est-ce qu'il nous reste à voir dans l'actualité des sports ? Un mot de cyclisme !
C'est ça, c'est alors cyclocross plus précisément. C'était les championnats de France de cyclocross qui se plaçaient à Liévin dans le Nord-Pas-de-Calais. Et Clément Venturini, qui était le grand favori de ces championnats de France, lui qui restait sur 3 titres d'affilée, n'a pas réussi cette saison à remporter ce 4e titre d'affilée sur un terrain très boueux, très compliqué, où il y a beaucoup de parties pédestres dues au terrain, au parcours très très boueux. C'est le Joshua Dubo, le français, du coup, enfin français forcément, de championnat de France, qui s'impose, lui qui est resté sur 2 deuxièmes places derrière Clément Venturini, qui enfin s'impose. Il s'impose devant Yann Gras, le deuxième, et notamment Fabien Doubet qui faisait un bon parcours avant de voir revenir sur lui, Yann Gras et Joshua Dubo. Il finit quand même à la belle 3e place pour lui. On peut changer et avoir un petit mot notamment du FC Nantes féminin. L'info qui me vient de Jean-Marc.
C'était
la Coupe de France. Et le FC Nantes qui jouait contre Guingamp en équipe de première division s'est imposé 2-1. Le FC Nantes qui du coup est qualifié, et ça c'est vraiment très intéressant, surtout face à Guingamp qui est une équipe de D1, donc on peut les féliciter, elles qui du coup sont qualifiées pour le prochain tour.
Ouais, j'ai un mot de golf aussi.
Vas-y.
C'était le PGA Tour, le Tournament of Champions, c'était à Hawaï, la victoire qui revient à l'Australien Cameron Smith, qui bat le record d'un score sur un tournoi du PGA Tour, moins 34, c'est incroyable. Ça fait quasiment moins 8 par tour.
Et
il s'impose d'un coup devant Yon Ram, le numéro 1 mondial. 4e victoire pour Cameron Smith en carrière sur le circuit américain.
C'est une belle victoire. Pour lui, qu'on voyait un petit peu moins ces derniers temps, et donc là c'est
on voyait surtout sa coupe mulet, mais un peu moins le joueur.
Une belle coupe mulet, ça, ça on aime. C'est ce qui fait sa particularité. Et donc c'est une belle victoire pour lui. Deux aussi infos sport local, c'est la victoire du VBN 3-1 à Marc en Barrel.
La belle série continue pour les passionnantes.
Continue pour elle. Je vais vous donner le score. Tout de suite, j'arrive. C'est une victoire importante pour elle. Une victoire 25-20, elle perd le premier set, puis 22-25, 22-25 et enfin 14-25. Donc le FC Nantes qui continue, les Nantaises, le VBN qui continue à la 3e place, juste derrière Mulhouse et le Canet qui est en tête. Côté basket, c'était les féminines des Déferlantes qui jouaient. À Mondeville, et une victoire 68-52. Mondeville qui était les leaders de cette D2, donc une belle victoire pour les Nantaises, 68-52.
Je crois qu'on est à court d'informations.
C'est un petit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Si on va retourner vite fait sur du tennis, c'était Amanda Anisimova, l'américaine, qui s'impose face à Sasnovic en finale de Melbourne 2. Elle prépare bien l'Open d'Australie, elle qu'on avait surtout vu à Roland-Garros en 2020 faire une demi-finale. Depuis, on la voyait un petit peu moins. Donc c'est un trophée pour elle et qui va du coup bien préparer sa saison, notamment pour l'Open d'Australie.
Et c'est moi, j'ai une petite info pour la boxe, pour une demi-finale en IBF, en poids lourd. Denis Oka s'est vu proposer Philippe Ergovic, qui était celui dont Yuka avait battu en demi-finale au JO 2016.
Ah tiens, une retrouvaille peut-être.
Et ça, et ce serait pour le vainqueur, il serait le challenger officiel du champion IBF, WBO, l'Ukrainien Alexandre Ouzik.
Donc ça se précise pour Yuka.
C'est ça.
Bon, si on n'a plus rien à vous dire, on va rendre l'antenne. On se dit évidemment à lundi prochain. On laisse la place à nos potes de Passage en Force. Et on vous dit ciao, à bientôt.
Bonne semaine à tous.